Aloha, moi c'est Anaël. Bienvenue sur Pépite Mama, un podcast dédié au postpartum en Suisse. Au fil des épisodes, vous allez découvrir différents récits afin de comprendre comment les choses fonctionnent dans notre région. Et également, tenter de découvrir ce qui pourrait être mis en place afin de soutenir les futurs parents. Ce sera aussi l'occasion de se plonger dans ces histoires incroyablement passionnantes et bouleversantes. J'espère que ce podcast vous aidera, vous conseillera et vous rassurera, car finalement, même si chaque expérience est différente, le sujet nous concerne tous. Bonne écoute.
Salut Haïfa.
Salut Anaël.
Bienvenue sur Pépite Mama.
Merci à toi.
Je profite avant d'entrer dans l'épisode pour remercier Lidl qui t'a généreusement offert une super poche avec plein de super produits et une petite carte cadeau. D'ailleurs, tu me disais en aparté que tu adorais leurs couches et que tu n'utilisais que ça. Donc du coup, je pense que tu pourras faire le plein de couches pour la petite. On commence toujours avec une petite présentation. Tu vas me donner ton prénom, ton lieu d'habitation, si tu as des enfants et leur âge.
Alors, je m'appelle Haïfa, j'ai 32 ans et j'ai une fille qui a 14 mois.
Comment elle s'appelle? On a le droit de le savoir?
Bien sûr, elle s'appelle Jade.
Salut. Alors, petit bonjour à Jade. T'es là pour nous raconter son histoire d'ailleurs, donc ça tombe bien. Avant d'entrer dans le sujet de Jade, on va commencer déjà peut-être sur toi. D'où est-ce que tu viens? Comment t'as rencontré le papa de ta fille?
Alors, donc pour ne pas remonter très longtemps dans le temps, je suis tunisienne, donc je suis venue en Suisse pour faire mes études. Et donc, j'ai rencontré mon mari de part d'une amie en commun.
Ok.
Donc voilà, ça s'est fait comme ça. Et puis, on a fait nos petits bouts de chemin ensemble.
Du coup, t'es jamais retournée en Tunisie? Enfin, pour les vacances, mais pour habiter, une fois que tu es arrivée là, tu t'es dit, je repars pas, quoi.
Non, du tout pas. En plus, je l'ai rencontré, donc voilà.
Ok. Et comment ça s'est passé avec ton mari? Enfin, vous avez directement eu le coup de foudre ou alors ça s'est fait
Non, c'était pas du tout le coup de foudre. On était un peu amis, on faisait partie du même groupe. Et puis, honnêtement, je le calculais pas, il me calculait pas non plus.
Ok.
Et puis petit à petit, ça s'est fait un peu lors des grillades.
Ok.
Et donc voilà, on s'est rencontrés comme ça. Et puis on a commencé un peu à se fréquenter, mais voilà, sans que ça soit. Moi, je sortais d'une relation un peu toxique. Et puis bah voilà, on cherchait pas non plus à quelque chose
un peu casual, comme on dit quoi.
C'est ça, exactement. Et puis ça s'est fait petit à petit. On s'est attachés. Et puis voilà, après on est tombé amoureux. Mm-hmm. Et donc puis les choses se sont vite faites, dans le sens où on s'est vite installés ensemble. Okay. Et puis après, on s'est mariés en 2019.
2019.
Donc, depuis 2017, entre 2017 okay. et 2019, on est resté un peu comme ça. Et puis après, on a décidé de se marier.
Et gros mariage, petit mariage?
Gros mariage. On a mis le paquet. Vraiment, wow. c'était assez cool.
Ici ou en Tunisie?
Ici. On n'a pas fait de mariage en Tunisie. C'était okay. prévu d'ailleurs. Ouais. Mais après, ça ne s'est pas fait. Il y avait le Covid.
Il y avait le Covid, ouais, j'allais dire.
Et donc voilà, c'était un mariage avec famille, amis. Et c'était assez chouette.
Un beau souvenir, quoi.
Oui.
Ouais. Et du coup, à un moment donné, c'est vite venu après le mariage l'idée de fonder une famille ou pas tellement? Vous étiez en mode on profite des années aussi aux jeunes mariés, quoi.
Alors, on savait qu'on voulait avoir des enfants, ça c'est sûr. Donc, on était sur la même longueur d'onde par rapport à ça. On en parlait, mais sans plus. Mm-hmm. On était encore aux études à ce moment-là. Donc, lui et moi. Et,
qu'est-ce que vous faites dans la vie?
Alors, moi, je suis éducatrice sociale. Je travaille avec les jeunes. Et puis, lui, il est analyste. Il fait plein de trucs avec les ordinateurs.
Mm-hmm. Tout ça. Un bon geek, quoi.
Exactement. Tout à fait. Donc, voilà, on était aux études, les deux à l'université. Et puis, en fait, voilà, on se sentait pas d'avoir des enfants à ce moment-là. Mais on savait qu'à un moment, on allait s'y mettre.
Vous alliez y passer, quoi.
C'est ça.
Et du coup, à quel moment t'as eu ce... Enfin, est-ce que lequel a un peu, genre, enclenché la discussion bébé?
Honnêtement, c'était les deux. C'était assez équilibré à ce niveau-là. On savait à quel moment. On savait... En fait, on s'est mis... C'était un peu comme un projet pour nous. On est assez organisés à ce niveau-là, où on s'est dit... Quand on finit les études et puis qu'on voit qu'on est dans une certaine stabilité, que ce soit financière ou autre, qu'on allait s'y mettre. Donc, on savait un petit peu à quel moment c'était le plus propice. Et donc, quand on a terminé nos études, donc moi, je travaillais déjà. Ouais. Lui, il était encore aux études. Mm-hmm. Puis quand il a fini, eh bien, voilà, on s'est dit, bon, c'est un peu le moment. Mm-hmm. Puis c'était un peu comme ça.
Ouais.
On ne s'est pas donné une date.
Non, mais le ressenti était commun.
Le ressenti était très commun, oui.
OK. Ça. Et alors, raconte. Comment ça se passe?
Alors, bon, bah voilà, moi j'étais sous contraception à ce moment-là, et puis on s'est dit, bon, bah voilà, c'est le moment, hein, oui. C'est le moment, on est assez
pourquoi
stable.
Pourquoi pas arrêter?
Et pourquoi pas arrêter? Donc j'ai arrêté ma pilule, je me rappelle, c'était en fin d'année.
Quelle année qu'on se rende compte?
C'était en 2021.
2021, fin d'année 2021.
Voilà. Et donc, on s'est dit, bon, ben voilà, ça va prendre du temps, parce qu'on entend un peu partout que ça prend du temps, etc. Donc, je me suis fait une assurance privée, parce que je voulais accoucher en clinique. Enfin, voilà.
Maline.
Tout organisé en fonction, sauf qu'en fait, il n'y a rien qui se passe comme prévu. Donc, je tombe enceinte assez rapidement.
Tu avais déjà ton assurance?
Oui, j'avais déjà mon assurance, mais en fait, elle prenait effet une année après ou un truc du style, puis j'étais à 2 mois après. Donc, je suis tombée enceinte assez rapidement.
Ok. Ce qui est cool.
Et ce qui est très
ballot
cool.
Pour l'assurance.
Exact. Ballot pour l'assurance. donc, voilà. C'était pas quelque chose de très grave, finalement. Et puis, voilà, je suis tombée enceinte assez rapidement. J'étais très contente.
Et comment t'as su que t'étais enceinte?
Alors, bon, voilà. On s'est mis un peu dans ce truc de « on va avoir un enfant mm-hmm. ». Donc, moi, j'étais avec mes tests d'ovulation.
Ah ouais, carrément, tests d'ovulation dès le début.
Ah
ouais,
t'inquiète. J'étais à fond, mais j'avais mon tiroir rempli, j'étais en mode guerrière et puis…
Un projet, quoi.
Un projet. Vraiment un projet. Et puis, ça me ressemble pas mal, ça. Ouais. J'aime bien être sous… Enfin, contrôler les choses et puis avoir vraiment… une idée un peu sur ce qui va arriver. Donc, j'étais un peu dans ce truc. Donc, et puis, petite parenthèse, c'est fou parce que quand on se met dans ce projet de faire un enfant, eh ben, il y a un peu tout qui change. Et puis, on fait l'amour un peu dans cet objectif-là.
Ouais,
finalement,
c'est
ça change
différent,
un peu
c'est
les
clair.
Choses et puis les perspectives. Ouais. Et c'est assez marrant. Et donc, voilà, on était un petit peu dans ce truc-là. Et donc, j'avais mes tests de grossesse à la maison, sauf que je les ai faits au fur et à mesure. Moi, je suis tombée enceinte 3 mois après,
okay.
Donc c'était pas assez long. Et je me rappelle, ma mère, elle était en visite chez nous pendant cette période-là, et puis on était faire les courses un soir, et je me sentais pas bien, mais pas bien. Quelque chose de nouveau que j'ai jamais ressenti. J'avais des bouffées de chaleur, et vraiment de nulle part. Course, et puis je disais, maman, mais en fait. Ça va pas, quoi. Je me sens vraiment pas bien. J'ai envie de rentrer maintenant. Puis elle m'a dit, bah écoute, ok. Et puis pendant les cours, je lui ai dit, mais tu sais quoi, je vais prendre un test de grossesse. Mais parce que je savais.
Et elle savait que vous étiez, bah du coup, que vous étiez.
Ouais,
c'était pas un secret.
Non, pas du tout. On en a discuté avec ma mère. Enfin voilà, je suis assez proche de ma maman. Donc je lui dis un peu tout. Et puis je lui dis, tu sais quoi, je vais prendre un test de grossesse parce que. Peut-être que c'est ça. Ça peut pas être autre chose. Là, je me sens vraiment. Ouais. Voilà. Donc, je prends mon test de grossesse et puis je me rappelle que ma mère, elle me dit, c'était 18h. Puis elle me dit, mais tu sais, mais fais-le le lendemain matin. Mm-hmm. Tu le fais pas maintenant. Enfin, ça va. Hein, et tout ça, repose-toi et tout. Moi, je dis, mais ok, maman, d'accord.
Tu l'as écouté?
Et puis, je l'ai pas écouté du tout.
Forcément.
Donc, je prends mon petit test. Je vais dans ma salle de bain. Je fais mon petit test. J'attends. Donc, j'ai pris le test digital, le fameux bleu et blanc.
Ouais. Comment ça s'appelle d'ailleurs? C'est quoi cette marque déjà?
C'est Clear Blue.
Clear Blue, merci.
Et puis, voilà, j'attends. Et puis là, c'était positif, en fait.
Mais tu n'avais pas encore de retard de règles?
Non, j'avais pas de
donc
retard.
Donc, tu étais vraiment
j'étais
précoce, quoi.
Une semaine, une, deux semaines, en fait. Ça t'est marqué sur l'écran. Donc, c'était assez précoce et je le savais. Enfin, on travaillait pour ça.
c'était l'idée,
projet.
C'était le plan, quoi.
C'était le plan, quoi. Et donc, j'étais tellement heureuse dans ma salle de bain et tout. Je me suis dit, bon, moi, je vais me reprendre. Et puis, il n'y avait pas une annonce particulière à faire. Et ça me ressemble, ça aussi, pas mal. Je suis sortie dans le salon, il y avait ma mère, il y avait mon mari. Et puis, je leur ai montré le test, en fait.
Carrément,
dit, voilà, je suis enceinte. Et voilà, les larmes. Et puis, on était vraiment super, super, super heureux.
Ah, mais tellement chouette.
Ouais.
Tellement chouette.
Donc, voilà comment ça s'est fait.
L'aventure a commencé. Le projet a commencé, étape 1.
Étape 1, check. Voilà.
Enceinte. Et alors, comment tu vis ces premiers mois de grossesse ?
Alors, le premier trimestre était... Ouais, c'est bien. Bon, j'avais des nausées. Enfin, voilà, rien de foufou. J'étais pas non plus super en forme, mais ça allait quand même. J'ai eu des petites périodes où j'étais pas bien. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ma grossesse était presque parfaite. Okay. Je dis presque parce qu'on va y venir.
On va y venir.
On va y venir. Elle était presque parfaite. Les premiers mois étaient voilà, super standard, je dirais. Standard. Et puis par la suite, ça s'est estompé. J'étais bien, j'étais super bien dans mon corps, j'étais super bien dans ma tête.
Ouais. Et puis t'aimais être enceinte, quoi.
J'étais mais tellement bien. Ouais. J'étais mais j'ai adoré cette période vraiment. J'ai adoré cette période où voilà, je me suis sentie femme en fait. Et
limite, ça t'a donné confiance en toi, quoi.
Clairement, clairement, j'ai jamais autant aimé mon corps. Ah, ouais. Je me suis jamais aussi bien habillée de ma vie, je
mais
crois,
incroyable.
Que pendant ma grossesse.
Et j'entends des femmes me dire ça et je trouve ça génial.
Oui, j'ai adoré.
Et est-ce que tu avais des conseils de ta maman qui, j'imagine qu'en Tunisie, il y a aussi des petits rituels ou des petites choses qu'on dit par rapport
Tout à fait.
Alors, raconte-nous un
peu. Alors, bon, elle était aux petits soins. Bon, elle est loin, donc elle habite, elle habite là-bas. Mais elle est venue quand même quelques fois et puis on est au téléphone tous les jours, je l'appelle, etc. Et ouais, des petits conseils, il faut pas se fatiguer, des petites tisanes, des petites potions magiques.
Et est-ce qu'il y a des petites astuces, par exemple, je sais pas, mets de l'huile d'olive sur ton ventre, enfin des choses qu'on n'entend pas forcément.
Exactement, bah justement, l'huile d'olive, ça soigne tout. C'est vraiment le médicament à tous les maux.
Parce que je te pose la question, parce que pour la petite histoire, j'ai été en Tunisie quelques jours en octobre pour self-care. J'étais seule quelques jours.
C'est génial.
Et du coup, j'avais quelques soins et j'avais des Tunisiennes qui m'ont dit d'ailleurs, qui étaient là, mais en fait, mettez de l'huile d'olive sur votre visage, c'est ça qu'il faut, arrêtez les crèmes. Enfin, et du coup, je trouvais ça tellement cool d'avoir des conseils comme ça.
Alors, l'huile d'olive, c'est partout. Donc, moi, je l'ai utilisée pour moi, pour ma fille, tout le temps.
Parfait.
Donc, ça, c'est un conseil que j'ai appliqué à la lettre. Je n'ai pas appliqué tous les conseils, bien évidemment.
Il faut faire le tri.
Et voilà, bien manger. Voilà, elle me donnait des petites recettes. Se reposer, enfin voilà. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Tunisie, c'est comme une autre culture. Quand une femme est enceinte, elle est tellement entourée.
Ouais.
Que ce soit pendant la grossesse ou
le postpartum. Quoi, ouais.
Le postpartum, c'est autre chose.
Ouais,
vraiment,
ça...
on prend
déjà, tellement... c'est très famille, en fait, la Tunisie.
Énormément. Et c'est ce qui m'a manqué.
Ouais,
fait,
j'imagine.
Surtout avec l'histoire
avec
de
l'histoire
Jade.
Avec l'histoire qu'on va... Ouais. Ouais, ça va. Bon, du coup, ben, la grossesse se poursuit. Raconte-nous, ben, déjà, est-ce que vous aviez voulu savoir le sexe de,
oui.
De la petite?
Oui, alors moi, j'étais très curieuse de savoir. Et en fait, dans la famille de mon mari, c'est tous des garçons.
Ok.
Depuis je ne sais quelle année, la dernière fille qui est née, elle est plus là depuis le temps. Et donc, que des garçons. Donc, on s'est dit, on va pas faire l'exception.
Ouais.
Donc, moi, j'étais persuadée que c'était un garçon. Et donc, on voulait savoir le sexe comme ça. Mais moi, j'étais sûre que c'était un garçon. Sauf que je pense que c'était à 12 semaines où on pouvait prédire un petit peu sans être sûr. Et puis là, ma gynécologue, donc elle me fait l'échographie, tout bien. Et puis, elle me dit, est-ce que vous voulez savoir le sexe? J'étais, mais oui, bien sûr, et tout ça. Et là, elle me montre un petit truc. Je dis, mais ça, c'est un garçon. Enfin, ça a l'air d'être un garçon. Elle me dit, non, ça, c'est... J'ai l'impression que c'est une fille. Mais voilà. Voilà, c'est 70%, etc. Il faut pas... Ça peut peut-être être un garçon et tout ça. Et puis, moi, quand elle m'a dit une fille... Et moi, ce qu'il faut savoir, c'est que mon rêve, c'était d'avoir une fille.
Mais non
premier. Donc, une fille, c'était un peu mon truc. Et puis, j'étais tellement heureuse. Je me suis dit, mais mes rêves se réalisent. Là,
incroyable,
c'est pas possible.
Ouais.
Donc, mon projet, il était tchèque, enceinte, une fille.
L'exception, la fille.
Mais c'était la folie. C'était la folie. Donc, oui, on était très heureux. Okay. Mon mari aussi était un peu. Oh, je vais avoir ma petite fille. Donc, c'était une annonce assez chou. Ouais, c'est ça.
Et alors, poursuis un peu cette histoire, cette grossesse. À quel moment tu nous disais qu'il y avait un petit quelque chose
Alors, donc, la grossesse passe super bien, mais vraiment très, très bien. Mm-hmm. Et puis, un soir, donc moi, j'ai arrêté le travail. Donc, j'ai travaillé tout le long. J'étais à 100%. Ah ouais. J'étais à fond.
Ça ne te fatiguait pas parce que les auditeurs ne savent pas, mais tu disais que tu travailles avec des jeunes qui ont quoi, 12, 17 ans. Donc, c'est quand même. Ça demande beaucoup d'énergie.
J'étais bien, en fait. Alors, je me ménageais quand même un petit peu, mais sans plus. Ouais. Mais j'étais super bien. Ma gynéco ne m'a pas arrêtée. Je pense que j'ai eu une petite baisse de pourcentage à la fin. Et puis, j'ai arrêté à la fin, donc un mois avant mon terme. Mon terme, c'était le 12 décembre. Et donc, j'avais rendez-vous chez elle le mercredi. Donc, le 12 novembre, c'était un lundi. Le mercredi, j'avais rendez-vous chez elle pour mon rendez-vous des 36 semaines. Ouais. Oui, alors ce qu'il faut savoir, c'est que ma fille, c'était un gros bébé.
Ok.
Donc l'estimation de poids était à la limite.
Ok.
Et donc elle m'a dit, donc voilà, on va faire le contrôle des 36 semaines. Ouais. Ça reste un gros bébé, elle n'a pas maigri, hein, bien évidemment. Et puis, à 38 semaines, peut-être qu'à l'hôpital, à voir. Donc, ok. Tout dépend des...
Toi, ça te stressait qu'on te dise ça ou pas tellement?
Pas du tout. Franchement, mais comme je t'ai dit, honnêtement, j'étais un peu sur un nuage. Et... je n'avais aucune crainte. J'étais un petit peu insouciante, en fait, tout bien. Okay. Je disais, mais je vais accoucher, ça va être super. Ma grossesse était super. J'ai une fille, c'est génial.
Ouais, ouais. Il n'y a rien qui pouvait t'atteindre.
Il n'y a rien qui peut m'atteindre. Il n'y a rien qui peut m'atteindre. Et donc, là, je fais mon contrôle des 36 semaines, tout bien, RAS. Et puis, donc, je continue un petit peu ma vie et... le jeudi soir, je commençais à me dire, mais en fait, je la sens un peu moins bouger.
Ok.
Mais sans plus. Ouais. En fait, toute cette histoire fait que j'étais insouciante. Ouais. Et en fait, entre guillemets, je m'en foutais un petit peu parce que je savais que tout allait bien.
Ouais.
Et puis le mercredi, j'étais chez la gynéco, quoi.
Ouais, t'étais la veille, quoi.
Tout va bien, ma fille, elle est... c'est un gros bébé et tout ça, on n'est pas non plus dans un truc. Donc, le jeudi soir passe, le vendredi, bon, voilà, je me concentre pas trop sur mon ventre parce que, ben, voilà, j'avais quelques courses à faire, etc. Donc, je sors, j'ai passé toute la journée dehors, j'ai bu mon petit café, mon petit gâteau, enfin, j'étais tout bien. Et donc, le vendredi soir, petit détail, on voulait manger une fondue avec mon chéri. Et donc, on était en train de manger notre fondue. Il était au téléphone avec ses parents. Et moi, j'étais sur mon ballon. J'ai acheté les dates. J'ai acheté le petit thé de framboisier. Et puis, j'étais sur mon ballon, etc. Et puis, je touchais mon ventre. Puis, c'est vrai que je ne la sentais pas réagir, quoi. Donc, ça m'a un petit peu inquiétant. Donc, j'étais sur Doctissimo, le truc à ne pas faire, mais jamais, jamais de la vie. Et ça m'a alarmée.
Ouais.
Ça m'a alarmée. Et donc, lui, il finit l'appel avec ses parents. Je lui dis, bah, écoute, ça serait bien si on va contrôler un petit coup. Parce que là, enfin, voilà. Mais j'étais pas stressée. J'étais pas du tout inquiète. Pour moi, c'était juste un
petit... Mais il y avait quelque chose qui trottait, quoi, quelque part. Tu te disais, je préfère en avoir le cœur net, quoi.
Ouais. Exactement. Et je regardais l'affluence dans les urgences. Mm-hmm. Parce que, en fait, j'étais tellement relaxe.
Ouais.
Puis j'étais tellement bien avec mon petit caquelon et ma fondue sur mon petit ballon. que je me suis dit, mais je ne vais pas aller me taper 2 heures d'urgence. Ouais. C'est pas grave, j'irai demain.
Ouais.
Tu vois. Vraiment, et ça m'a sauvé, ça a sauvé la vie de ma fille, en fait. Il y avait peu d'affluence. Les petits bonhommes étaient tout verts. Et donc, je lui dis, mais tu vois, voilà, on y va. J'appelle quand même la maternité de l'hôpital où j'allais accoucher. Et puis, ils me disent, mais venez tout de suite.
De toute façon, une maternité, alors moi, c'est pour le petit aparté, si vous avez un doute, allez-y. Il n'y a jamais personne qui vous dira, non, vous n'auriez pas dû venir.
Mais
vraiment.
Tu sais, moi, ça, je le dis à tout le monde autour de moi, mais enceinte, pas enceinte, quelqu'un qui prévoit d'avoir un enfant ou pas, je dis, mais... si vous avez un pressentiment ou juste le fait de vouloir voir votre bébé, allez-y.
Ouais, ouais.
Parce que moi, ça m'a vraiment sauvée.
Ça a littéralement sauvé la vie. On va le découvrir. Un petit teasing.
Et donc,
vous partez pour la maths.
Donc, on part pour la maths. Moi, j'étais en pyjama.
Limite avec ta fourchette
à fendue. Mais c'est ça, hein, je suis allée, mais je me suis dit, je vais contrôler, je vais rentrer. Non, mais ça va ou quoi? Donc, on arrive à la maths. Je fais même pas à l'accueil, je fais même pas l'enregistrement. Mm-hmm. Là. Je m'en direct. On me prend en charge directement. Donc, c'était même pas 5 minutes d'attente. Et puis là, on pose le monito. Et puis, moi, j'étais tout bien. Il y avait deux sages-femmes à côté de moi, très gentilles d'ailleurs. Mm-hmm. Si elles nous écoutent, je les remercie. Je ne sais pas si elles vont se rappeler de moi, mais moi, je me rappelle très bien d'elles. Donc, prise en charge assez rapidement, monito. Et là, c'était rapide, quoi. Okay. Là, donc, elle regarde le monito et puis elle me dit, écoutez, donc, elles me font boire du sucre.
Ouais,
il y a rien qui se passe. On entend le cœur, mais pas de mouvement. Mm-hmm. Très peu, en tout cas, de mouvement. Et puis là, elle regarde le monito, puis elle me dit, mais madame, c'est quasi plat. Et moi, je ne savais pas ce que c'était quasi plat. Ouais. Et en fait, même si j'avais un peu un doute comme ça, je dis, mais non, ça va aller, elle dort, on va savoir. Enfin, j'étais dans un déni total, encore sur mon nuage, encore dans mon truc de...
Et ton mari?
Alors, lui, il était donc à côté de moi, et... Il me rassurait. Il me disait, mais tout va bien, ça va aller.
Donc, les deux un peu dans votre bulle, quoi.
Exactement. Mais moi, j'étais allongée et puis je voyais un peu que ça s'agitait autour de moi, mais je n'étais pas consciente, en fait, de ce qui se passait. Mais je pense que lui, en étant debout, il voyait. Et puis là, il y a une sage-femme qui est venue puis qui m'a posé le cathéter. Puis je disais, mais n'importe quoi. Enfin... Je sais que à chaque fois qu'on va contrôler, etc., ils font tous les examens possibles et imaginables. Mais non, mais c'est ce que je voulais pas, quoi. Mm-hmm. Moi, je viens, je finis ma fendue, je viens contrôler les gars et je rentre chez moi. Tu vois.
Et je me mange la meringue.
C'est exactement ça. Il y a ma meringue qui m'attend, quoi. Arrêtez, c'est pas possible. Mais pourquoi vous me posez un cathéter, quoi?
Mais là, ils t'expliquent pas. Ils te disent juste, non, c'est plat. Mais plat, exactement. Toi, ça te parle pas. Et...
Moi, ça me parle pas. Et puis, j'entendais le cœur. Donc, je me disais, bon, mon bébé, il va bien. Et puis, voilà. Après, donc, la même sage-femme qui me pose le cathéter, elle me dit, bon, écoutez, si ça va pas, préparez-vous à accoucher ce soir. Mais j'étais, mais non. Et puis... J'avais des rires nerveux.
Je comprends,
C'est pas possible. Oh, mais je vais pas accoucher. Mais mon bébé, il va rester dans mon ventre et penser tout, tu vois. J'étais un peu dans ce mood-là. Et donc là, ça a commencé un peu à s'agiter. Donc le monito continue. C'était, je pense, 10-15 minutes de monito. Toujours rien, etc. Et puis, elles me disent qu'elles vont appeler la gynécologue de garde. C'était à 22h le soir, il faut savoir. Et puis, la gynéco, elle vient. Mm-hmm. Et puis, elle me dit, écoutez, madame, je ne vais pas parler, je dois me concentrer. Et puis là, silence total.
Ouais, ça peut être flippant ce genre de moment.
C'était flippant. Là, je pense que je commençais un tout petit peu à réaliser. Ouais. Donc là, elle me fait l'échographie, elle essaye de faire bouger, elle m'examine. Il y a un peu tout, plein de personnes autour. La salle commence à un peu se remplir. Mm-hmm. Et je pense qu'eux, ils étaient, ils savaient. Ils savaient. Et puis, là, elle me dit, écoutez, madame, là, les mouvements sont reptiliens. Donc, c'est un peu le terme qu'elle utilise. Donc, c'est vraiment on peut pas appeler ça des mouvements. Donc, ma fille, elle ne bougeait plus. Il faut qu'elle sorte tout de suite pour savoir ce qui se passe. Ouais. J'étais, non. Non, en fait, non, ça va très bien, non, mais je la sens bouger. Et puis, en fait, je suis entrée dans un espèce de, je sais pas comment qualifier ce sentiment, mais j'étais hors de moi.
Ouais, t'étais en confrontation avec la situation. Ouais.
Exactement, j'étais non, ça va très bien, vous vous trompez, et puis ainsi de suite. Donc là, elle va parler avec la gynécologue, mon chef. Et puis, 2 minutes après, elle revient et elle me dit, écoutez, madame, on part en césarienne.
On part au bloc.
Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les césariennes d'urgence, il faut que le bébé sorte dans les 15 minutes. Donc, c'était code rouge. Et il y avait tout le monde qui était autour de moi. Mon mari, il est parti pour qu'il se prépare pour le bloc. En me déshabille, en m'habille avec la Charlotte et puis toute la tiraille du bloc. Et moi, j'étais, mais c'est pas possible. Et puis, je regardais la gynéco. C'est drôle maintenant, mais sur le coup, je lui dis, mais est-ce que j'ai le temps d'aller chercher mes affaires? Tu vois.
Ouais, ouais. T'étais vraiment dans.
Alors, c'est un petit détail.
T'avais pas encore compris. Ouais, mais ça prouve à quel point t'étais pas dans le présent, en fait. Non, c'était difficile pour toi de comprendre.
J'étais sur une autre planète. Ouais. Moi, je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Ouais. Mais c'est pas possible, ma grossesse. Donc, voilà, on m'emmène au bloc. C'est un peu comme dans les séries où je vois un peu les lumières défiler.
Ils peuvent te faire une rachie ou ils t'endorment?
Alors, justement, j'avais peur qu'ils m'endorment. Ouais. Mais moi, en fait, j'avais aucune idée de la césarienne. Parce que pour moi, j'allais accoucher en mode physio dans le bain, quoi. Ouais. Tu vois. J'étais loin de m'imaginer un peu cette tournure. Et donc, là, on m'emmène au bloc. Il y avait, je ne sais pas combien de personnes autour de moi, mais ils se sont tous présentés. Ouais. Des pédiatres, il y avait des sages-femmes, les infirmiers, il y avait 3 gynécos. Donc, la gynéco en charge de la césarienne, la chef et puis une assistante. Enfin, c'était mais un monde fou dans ce bloc. Il était habillé tout en bleu. Enfin, la vision d'horreur, tu vois. Et là, on commence à me faire l'arachie. Elle voulait pas, donc ils n'arrivaient pas à me faire l'arachie, en fait. Et puis, ça devait...
Le temps passait,
Le temps passait. Et là, j'entendais la gynéco dire, donc c'était la seule chose que j'ai pu entendre, c'était, si ça ne marche pas cette fois, ça sera anesthésie générale. Ouais. Et donc là, la gynéco, que je remercie aussi énormément, qui était assez sérieuse, mais très humaine à ce moment-là, elle est venue. Et puis, elle m'a fait de la relaxation, un peu comme... de l'hypnose, enfin je sais pas, mais en tout cas j'étais sur
aidé,
une île,
et
puis j'étais tout bien, et puis là elle me dit, écoutez, là maintenant il faut vraiment que vous courbez le dos, et puis ça doit fonctionner, et là elle a commencé justement à m'emmener ailleurs, et donc ça a fonctionné.
Nickel.
À ce moment-là, donc c'était rachis, j'ai rien senti, et donc voilà. Césarienne.
Isola Zouvre.
Voilà, c'était une sensation. Mm-hmm. Alors, je sentais rien, hein, forcément, mais voilà, je sentais que ça farfouillait dans mon ventre. C'était assez impressionnant. Mon mari, il était à côté de moi. Et donc, on me dit rien. Hein. En fait, j'entendais le son des agrafes. Donc, ils étaient en train de fermer. Et puis, il y a l'anesthésiste qui m'a dit, bon, c'est tout bon, la césarienne, elle s'est super bien passée. Là, on est en train de vous fermer. Et puis, mais en fait, je viens d'entrer au bloc. Ma fille, elle est où?
Bah ouais, ils ne te l'ont pas montré quand...
Non.
Okay.
Non, ils l'ont emmenée directement.
Okay.
Après, il y a la sage-femme qui a emmené donc mon mari la voir. Il a pu prendre une photo.
Okay.
Mais alors, ce qui s'est passé, en fait, parce qu'elle était en détresse dans mon
respiratoire.
Ventre. Respiratoire à cause d'une hémorragie. En fait, ce qui est arrivé, c'est ce qu'on appelle une transfusion fœto-maternelle. En gros, c'est les échanges en fait qui se font plus très bien pour aucune raison. Et en fait, il n'y a pas d'explication. Donc, ils ont analysé le placenta, le cordon, et il n'y a rien. Il n'y a aucune anomalie. Ça arrive. Mais en fait, parce que je sais qu'il y a beaucoup de femmes enceintes qui t'écoutent, et puis c'est très rare.
Ouais.
C'est quelque chose de très, très rare. Et en général, on le sent, comme moi je l'ai senti.
Okay.
Mais ça n'arrive pas, quoi. Enfin, moi, ma gynéco, elle m'a dit, mais ça fait 30 ans que j'ai
ça. Elle n'a jamais vu ça, quoi.
C'est la première fois, tu vois.
Mais du coup, ça crée une hémorragie interne, cérébrale, comment ?
Alors, ça crée une hémorragie. En fait, les échanges ne se font plus bien, donc de sang. Et donc, y a donc son sang qui part dans le cordon, mais qui ne revient plus ou qui revient très peu.
OK.
Et donc, petit à petit, voilà, on peut imaginer ce qui aurait pu se passer si les petits bonhommes de l'affluence des urgences étaient rouges.
Ouais.
Parce que...
Bah, du coup, elle a plus, les globules ne viennent plus à elle.
Exactement. Il n'y avait plus rien qui était irrigué, ou en tout cas suffisamment irrigué.
Et dans son cas, là, c'était un stade où elle était un peu, quand elle est sortie, donc elle avait de la peine à respirer, elle était un peu inerte parce que faible.
Faible. Elle était blanche, en fait.
Voilà. Okay.
Blanche. Et puis, pour la petite anecdote, mon mari, il vient avec la photo, puis je la regarde et je lui dis, mais elle est blanche comme toi, quoi.
Ouais.
Parce que tu vois, moi, je suis brune et puis bronzée.
Et lui, on l'explique peut-être de ses origines.
Oui, alors lui, il est suisse et australien.
Voilà.
Donc, tu vois, blond aux yeux bleus, je dis, oh là là, mais ma fille, elle te ressemble, quoi. Donc, encore, tu vois, j'avais...
Bon, il t'avait expliqué ou pas, même pas?
Non, pas sur le coup.
Voilà, donc c'était aussi difficile de te rendre compte si on ne
donne
pas beaucoup.
Ils l'ont sorti et puis il me disait, enfin, il faisait des allers-retours parce qu'elle était dans la pièce à côté avec les pédiatres, ainsi de suite. Et puis, il me disait, on est en train de s'occuper d'elle.
D'accord.
On m'a pas dit... Enfin, pour moi, je me suis dit, tant qu'on m'a pas annoncé quelque chose de grave, donc ça va très bien, tu vois. Encore sur mon nuage. tu vois, encore sur mon nuage. Ça m'a aidée. Je pense que c'était mes protections un petit
peu. Ouais, peut-être que d'un certain côté, c'était ce qu'il te fallait pour pouvoir affronter la situation, quoi.
Exactement, c'est ça. Et j'étais bien, en fait. J'étais bien, j'étais pas en panique. Mm-hmm. Je savais qu'elle était entre de bonnes mains. Et puis, il y avait son papa à côté. Ouais. Et même si ça s'est pas passé comme prévu, et le projet a pris une autre tournure. Je savais qu'elle était entre de bonnes mains. Donc voilà, on finit l'opération, on m'emmène en salle de réveil. Ouais. Et je ne vois pas encore ma fille. Quoi. Mm-hmm. Donc mon mari, il était au téléphone un peu. Ouais, c'était genre 2h du matin avec les parents, en tout cas pour les prévenir. Et puis moi, j'attendais qu'on me l'emmène. Quoi.
Bah ouais.
Et puis là, on me l'emmène dans un incubateur qui était ultra haut. Plein de fils partout. Je la vois pas. J'arrive pas à la voir. Je vois juste mon petit pied depuis la vitre, disons. Avec les médecins du CHUV qui sont venus en mode ambulance, urgence, qui couraient. Donc, avec des machines partout qui bipaient. Donc, on emmène cette grosse machine et moi, je m'attendais à voir mon bébé, quoi. Mm-hmm. Tu vois.
Et là, c'était quoi ta réaction quand tu l'avais arrivé comme ça?
Je leur ai dit, mais partez. Partez parce que j'avais l'impression qu'il fallait qu'elle parte à un endroit où, en fait, elle était en danger.
Okay.
Elle n'était pas stable et je ne voulais pas qu'il perde du temps.
Ouais, donc tu voulais qu'il l'emmène.
Oui. Et là, la médecin, elle me dit, mais votre fille, elle n'est pas stable. On l'emmène au CHUV, en néonate.
Toi, t'étais où?
J'étais à Morges.
Ok, c'est important pour l'histoire, là, qu'on comprenne.
Alors moi, j'étais à l'hôpital de Morges.
Ok.
Et donc, il y a l'équipe du CHUV qui est venue parce qu'à Morges, donc, ils ont fait les premiers soins.
Ils n'ont pas la néonate, ils n'ont pas les...
Ouais. Mais par contre, ils ont fait un travail de fou. Donc, ils ont transfusé de sang.
Okay. Déjà à Morges.
Oui, déjà à Morges, dès qu'elle est née. Ils l'ont ventilé, ainsi de suite. Donc, ils ont fait les premiers soins nécessaires, en fait.
Vitaux. Exactement. Et ensuite, donc, tu as l'ambulance du CHUV qui est arrivée.
Exactement, qui m'emmène.
Qui la prenne.
Qui la prenne en charge.
Avec ton mari ou pas?
Alors, mon mari, il était dans la pièce et puis dans le couloir, un peu là où tout se passait. Moi, j'étais dans la salle de réveil. Et donc, lui, il a vu un peu tout ça. Mm-hmm. Il a assisté à tout, en fait, à tous les soins, à tout. Il a pu la voir, en fait, sans ses fils, sans tout ça. Et donc, il la transfère, il me l'emmène, je leur dis, partez. Puis là, la médecin me dit, mais est-ce que vous avez un t-shirt, quelque chose de votre odeur? Je dis, mais en fait, il faut aller les chercher en bas où je ne sais pas où je suis là, dans ce bâtiment. Donc, allez-y, s'il vous plaît, emmenez-la, s'il vous plaît, ne restez plus. Et puis, vraiment, j'étais un peu dans ce truc animal, tu vois.
Ouais, tu sentais que c'était maintenant, quoi.
S'il vous plaît, allez-y. Moi, je la verrai, ok? Je la verrai, mais pour le moment, allez-y, quoi. Ouais. Donc voilà, il l'emmène, moi on me descend dans une petite pièce et puis là, silence total. J'étais sans mon ventre, sans mon bébé. Mon mari était à côté de moi et vraiment, je me rappelle très bien de cette atmosphère où c'était lourd, c'était pesant, c'était silencieux. Il y avait des sages-femmes autour de moi, puis j'avais fait une petite réaction à l'anesthésie, donc j'avais un peu tout mon corps qui me grattait. Puis j'étais en fait... J'avais deux choses à vivre, en fait. J'avais ma fille, où je ne sais pas à quoi elle ressemble, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a, qu'est-ce qui lui est arrivé, est-ce qu'elle est en vie, est-ce qu'elle va survivre. Moi, qui étais en postpartum maintenant, tu vois.
Tu étais dans le darkness du postpartum.
Exactement, moi j'étais au fond du rouleau, au bout du rouleau. J'étais au bout du rouleau et je ne savais pas, en fait, où j'étais. J'étais en train, juste pour te dire, pour petit rappel, en train de manger ma fondue sur mon canapé, quoi.
Sur ton ballon, sur mon Swiss ballon,
tu vois, sur mon Swiss ball. C'était ça, 2 heures avant, tu vois. Et là, mais il y a tout qui bascule, tu vois. Et puis là, je regarde mon mari, je lui dis, mais tu sais, toi, tu peux marcher. Donc, prends la voiture et suis l'ambulance là où il y a Jade, parce que moi, on verra. Mais en tout cas, il ne faut pas qu'elle reste
seule. Faut qu'un de vous deux soit là-bas.
Et puis, les heures passent. Bon, je pense 2 heures après, c'était vers 4 heures du matin. On me dit qu'on m'avait trouvé une place au CHUV.
Ah, génial.
Donc là, il y a l'ambulance qui vient. Ils doivent m'emmener du grand lit au petit lit. J'avais mal. L'anesthésie a commencé à partir et tout ça.
Tu te sentais d'une césarienne d'urgence. Hein,
c'était l'enfer.
Ouais.
Et donc voilà, j'étais dans mon ambulance. On arrive au CHUV. J'arrive dans la chambre avec donc une autre maman qui dort. Puis ce qu'il faut savoir, ce qui est super bien, c'est qu'au CHUV, quand justement un accouchement qui se passe mal ou les enfants qui sont en néonate ou ainsi de suite, ils les mettent avec des mamans qui vivent un peu la même chose. Donc, j'étais pas avec une maman qui avait son bébé à côté.
Donc, soutien, quoi.
Exactement, c'est ça. Donc, j'avais une maman à côté de moi qui avait un peu aussi un vécu pas similaire, mais en tout cas, son bébé, il était pas avec elle. Et puis, on nous dit qu'on ne pouvait pas la voir tout de suite et puis qu'il fallait attendre le lendemain matin parce qu'ils étaient en train de l'installer, ainsi de suite. Donc, le lendemain matin, moi, j'étais au bout de ma vie, quoi. J'étais au bout de ma vie. En plus, il y avait une sage-femme qui est venue le matin et puis qui voulait enlever ma sonde urinaire. Je dis, mais en fait, j'ai pas encore fait ma première levée. Il faut me laisser cette sonde parce que je pourrais pas aller faire pipi, tu vois. Mais tu vois, tout ça, en fait, c'est des petits détails. Mais je devais aussi gérer mon postpartum.
Bah ouais.
Et j'avais ma fille aussi à gérer. Et je devais me déplacer pour aller la voir, tu vois.
C'est hyper difficile.
Mais moi, j'étais dans... Mais je devais vraiment être... Je pense que là, je me suis dit, j'aurais pu être clonée. Et puis,
c'est ça, en fait. Il faut que tu te sépares en deux. Et puis, il y a une partie qui doit essayer de se remettre physiquement. Exactement. Puis l'autre, ton cœur qui t'amène à aller au septième étage, si je ne dis pas de bêtises.
Alors, c'était au quatrième, la nonate. Okay. Mais c'est le huitième, là où il y a l'espace parent. Mais pas loin, tu vois. À un étage près, de toute façon. Donc, voilà. Puis, j'avais un petit peu aussi cette envie de me protéger.
Ouais.
Pour pouvoir guérir et puis pouvoir être là pour ma
vite
fille.
Vite là pour
donc
pour
j'étais un peu aussi dans une bulle de me dire, je veux dormir, je veux manger, j'en peux plus en fait, je suis au bout de ma vie. Là, il s'est passé quelque chose que je ne comprends pas.
Ouais.
Je suis en postpartum, je suis censée être avec mon bébé.
Ouais.
C'est pas possible que ça se passe comme ça, quoi. Donc, il faut vraiment que je me protège. Donc là, il y a mon mari qui va l'avoir le matin, moi j'étais au bout de ma vie. Et puis, donc il prend des photos, etc. Il me montre, mais j'arrive pas à comprendre en fait, parce que...
Mais est-ce qu'il y a un médecin qui était venu te dire concrètement ce qu'elle avait, ce qui se passait ?
C'était pas après. En fait, il savait pas ce qui s'est passé. Et ce qui s'est passé, en fait, alors, à Morges, on m'a dit qu'elle a fait une transfusion fœto-maternelle. Puis c'était un peu comme une hémorragie dans mon ventre.
Okay.
Elle était en train de se vider de son sang, si tu veux, dans le cordon.
Ouais.
Donc c'est ce qu'on m'a dit. Mais le pourquoi du comment, ils étaient en train de chercher.
Okay.
Le cas. Et après, on m'a dit, il n'y a pas d'explication, madame. C'est faute à pas de chance.
Mais au-delà des explications, est-ce qu'il y avait des conséquences plutôt ? En gros, qu'est-ce que physiquement, il se passait pour Jade ?
Alors, justement, il y avait... Donc, quand elle était en train de faire l'hémorragie, disons, ses organes n'étaient plus irrigués ou du moins pas assez pour que ça fonctionne. Donc, ce qui a créé une détresse, en fait, dans tous ces organes. Et un choc, ils appellent ça un peu le terme médical. C'est un peu un choc dans le corps. Et tout dépend de l'ampleur de cette hémorragie. Les séquelles sur les organes sont importantes.
Mais ils n'arrivaient pas à l'évaluer à ce moment-là, en
pas
fait, c'était trop tôt.
Non, pas à ce moment-là. À ce moment-là, ils prenaient vraiment étape par étape.
Okay.
On regarde le cœur, tout va bien. On regarde les poumons, tout va bien. On regarde
petit à petit, quoi.
Petit à petit.
Okay.
Donc tout va bien. Donc elle était intubée parce qu'elle n'arrivait pas à respirer, puis elle était en détresse, donc elle avait vraiment besoin de beaucoup d'oxygène. Ils lui ont enlevé le tube, je pense, deux jours après. Parce qu'elle était 48 heures, je pense, sous respiration. Elle n'avait plus d'aide après respiratoire. Et puis,
ce qui est déjà rapide, vachement.
Oui. Bah, en fait, elle est née, donc j'étais à 36 semaines.
Ouais.
Donc, c'était quand même pas de la prématurité.
Non, c'est pas de la prématurité.
On était quand même loin de la grande prématurité. Et puis, elle était grande, en fait.
Et elle pesait combien, raconte
3 kilos.
Ah ouais, donc effectivement. Ouais, donc c'était un bon bébé, quoi.
Oui, exactement. Mais ça l'a sauvée.
Ça l'a sauvée.
Elle a sauvé. Mais c'était quand même une petite crevette.
Oui,
quand elle est née, 3 kilos, c'est petit. Mais voilà. Donc, moi, quelques heures après, donc dans la matinée qui suit, donc c'était le samedi matin, je vais voir Jade sur mon lit d'hôpital et la vision d'horreur, quoi.
Ouais.
Vision d'horreur parce que j'arrivais pas
à accepter.
À reconnaître. J'étais, mais enlevez-moi tout ça. Encore une fois, la même chose que dans la mat. Enlevez-moi tout ça. Je veux mon bébé, je veux qu'elle soit dans mes bras et tout. Ça va très bien. Arrêtez un peu vos conneries, tu vois. Je n'ai aucune idée de ce qui se passait encore. L'ampleur, en fait, ce qui lui est arrivé. Et donc voilà, on était aussi très rapidement pris en charge, nous, par justement l'équipe de la néonatologie.
C'est bien fait là-bas, ils sont incroyables.
Ils sont incroyables, vraiment, les infirmières nous ont ramassé à la petite cuillère, elles s'occupaient super bien de Jade, super bien de nous aussi. Elles étaient, c'est des anges quoi.
Ouais.
Les médecins aussi, la même chose.
Pour travailler là-bas, tu dois être un ange, je crois.
Mais tellement, tellement. Elles étaient toutes aux petits soins, très douces, ainsi de suite. Donc, c'était vraiment une jolie expérience. Mmh. C'est fou, à chaque fois que je le dis, ça paraît paradoxal de dire c'était une jolie expérience, mais en fait, maintenant, avec du recul, 14 mois après, c'était une jolie expérience, en fait. Et très humaine.
Ouais,
et,
je pense qu'alors là, waouh.
Donc voilà, Jade, elle continue un peu son petit bonhomme de chemin en néonat, où tout va bien. Puis il y avait un peu des montagnes russes.
Mais toi, tu étais encore hospitalisée ?
Oui, j'étais encore hospitalisée, donc les 4 premiers jours avec ma césarienne. Puis après, je me suis dit, mais je vais rentrer à la maison. Mais c'est pas possible, moi, je vais pas laisser mon bébé ici, si j'habitais pas loin. Je leur ai dit, mais moi, je ne sors pas de cet hôpital, les gars. Je ne sors pas, laissez-moi ici. Je campe devant la mat du CHUV. Et puis, on m'a dit, mais on ne va pas vous séparer de votre bébé, madame, ça va. Bon, après, voilà, il y a des chambres et des places, etc. Ouais. Puis, c'est aussi priorité aux personnes qui habitent loin. Mais on a quand même pu trouver une chambre. Heureusement qu'il n'y avait pas beaucoup de bébés en néonat. Et heureusement que c'est des choses qui arrivent que rarement. Et je tiens à le dire pour rassurer aussi les personnes qui nous écoutent en disant que, voilà, heureusement qu'on a un système de santé en Suisse qui est génial et qui prend en charge ce genre de cas et même des cas plus graves. Enfin, il ne faut pas avoir peur que ça arrive. Enfin, c'est rare.
Oui, c'est
rare. La néonat, elle était loin d'être remplie de bébés. Enfin, on se calme, tout va bien, on respire, tout va bien. Donc voilà, donc on nous trouve une chambre au CHUV, au 8e étage. et puis on reste avec Jade un mois.
Okay.
Un mois à faire des allers-retours. Donc moi, je voulais mettre en place mon allaitement. Jade, elle était nourrie par la sonde. J'étais avec mon tire-lait toutes les heures et Mais moi, j'étais en...
Bon, toi, projet. Nouveau projet.
Nouveau projet.
Encore une bonne chose pour toi.
Mon lait doit sortir tout de suite. En plus, donc, j'accouche avant terme avec la césarienne, d'urgence, le choc, ainsi de suite. Il n'y avait aucune goutte qui voulait sortir. Mais moi, j'étais à fond. Je me suis dit, mais ce tire-lait, c'est entre toi et moi.
On va y arriver. Je t'explique. Je lâche pas, quoi.
Je mettais les trucs à fond. C'est incroyable. J'ai pas du tout suivi les instructions. J'étais non. Mais on met le truc sur 9, tu vois, pour que ça sorte. Je vais emmener du lait à ma fille, quoi. Et je tenais mes...
Bon, avec une telle volonté, j'imagine que t'as pas mis trop de temps à avoir du lait, non ?
Ah, mais j'étais à fond. Et là, voilà, ça coulait à flot. Ouais. J'étais tellement contente. Mais les premiers jours, Jade, elle était quand même nourrie avec le lait de donneuse. Donc ça, c'est super. Puis j'adore le dire maintenant, je dis, mais en fait, Jade, elle a bu du lait un peu de toute maman, et ça, c'est super.
D'ailleurs, donc, on fait la partie, si vous avez trop de lait, on rappelle au CHUV, ils prennent le don de lait qui aide vraiment les bébés en néonat.
Exactement.
Donc, n'hésitez pas.
Il y a des bébés qui ne peuvent boire que ça, parce que c'est le seul lait qui est le mieux digéré, en fait, par ces bébés.
Et donc du coup, t'as pu nourrir Jade.
Jade, j'étais à fond. Donc elle était très très faible. Elle était sédatée, donc elle n'arrivait pas à téter. Mais moi, j'étais non. Il faut qu'on enlève cette sonde. En fait, c'est le dernier tuyau qui reste. Ouais. On l'enlève tout de suite, les gars. Je vais vous dire, moi, je l'allaite, je lui donne le sein. Donc j'étais avec mes bouts de sein, je lui donnais le lait. Et donc je me réveille. Donc elle devait prendre du poids. C'est un peu
La règle, hein?
La règle. Et donc, j'étais à fond, quoi. 20 grammes par 20 grammes. Mm-hmm. Elle devait atteindre son poids naissance parce qu'elle n'était pas nourrie les premiers jours. Elle était à jeun pour pas faire tous les examens et tout ça. Et donc, elle a perdu quand même pas mal de poids et elle devait arriver à son poids de naissance pour qu'on puisse sortir. J'étais en mode guerrière. Ouais. On nous appelait l'équipe de choc en néonat. J'étais tellement à fond. Toutes les 2 heures. 2 heures, 4 heures, 6 heures, 8 heures, mais à la fille, je n'arrêtais pas du tout. Et je mangeais justement, conseil de maman, manger le sésame moulu pour le lait, ça marche.
Bon conseil. Voilà.
Non, là, j'étais avec mes petites cuillères de sésame parce que ma mère, elle est venue après.
J'allais te poser la question, oui. Ta maman, dans tout ça.
Oui, alors elle a pu venir. En fait, elle a prévu de venir avant mon terme un peu pour rester avec nous pour mon postpartum. Et donc, elle est venue un peu en urgence une semaine après la naissance de Jade. Où elle a vécu avec nous tout ça.
Okay.
Et puis, mes beaux-parents aussi.
Je pense que ça a dû te faire du bien de l'avoir. J'imagine qu'elle te préparait quand même des petits plats qu'elle t'amenait. Comme elle pouvait, de t'aider, en fait.
Exactement, tout à fait. Et c'était tellement précieux. Moi, je ne suis pas sortie de l'hôpital. Je regardais les gens depuis les vitres de la néonate. Puis c'était un monde parallèle pour moi. Je n'ai pas pu sortir, mais impossible. Je me suis dit, mais je ne mets pas un pied dehors sans ma fille, ce n'est pas possible. Donc, oui, elle venait tous les jours et elle nous emmenait des plats, le sésame, l'huile d'olive, tout ça. Et c'était très précieux.
Okay.
C'était très précieux.
Et à un moment donné, vous pouvez sortir de l'hôpital, raconte.
Oui. Après moult haut et bas, montagne russe, on a pu sortir. Donc, on a fait un peu tous les palais de la néonate. Donc, on était aux soins intensifs. Ouais. Après, on est monté au 8e étage un peu pour préparer la transition à la sortie. Donc, on était plus autonome. On avait une petite carte. On pouvait aller la voir. Bon, on peut aller la voir de toute façon.
Ouais, mais c'était un autre niveau.
Exactement, c'était ça. Elle était dans son petit lit. Elle avait plus rien, ni son ni rien. Elle a pu prendre son premier bain, enfin tout plein de choses que les parents font les premiers jours que nous on n'a pas pu faire. Elle avait un mois quand elle avait pris son premier bain, tu vois. Donc voilà, c'était quand même une sacrée étape. Et puis là, on nous annonce que Jade elle pouvait sortir, que tout allait bien.
C'était quelle date ?
C'était le 13 décembre.
Le lendemain de ce qu'aurait été son terme.
Exactement.
Ce qui est assez symbolique
Exactement,
aussi.
Exactement, c'est ce que je me dis. Je me dis, mais en fait, là, il y a la boucle qui est bouclée, quoi. Mais on était un petit peu sur notre fin, j'ai envie de dire, parce que Jade, elle a eu, donc suite à l'hospitalisation, ils lui ont mis des cathéters dans l'ambilique. Ce qu'on fait au bébé un peu en urgence, parce que c'est un peu la voie la plus rapide et la plus simple d'entrée. Et donc elle a développé un thrombus, c'est comme quand nous on se blesse et puis il y a une croûte qui se forme sur la peau, mais en fait les cathéters lui ont blessé ça en aorte et puis ça a fait une petite croûte donc sur la veine, en disant, sur l'artère plutôt, et c'était un risque que ces petites croûtes partent dans le sang et puis bouchent en fait. Et donc ce qu'il fallait faire, c'est rien de grave, c'était une petite séquelle suite à l'hospitalisation, mais il fallait qu'elle ait des piqûres de
fluidifiant.
Donc celles qui ont eu ça pendant des césariennes ou quoi savent ce que c'est. Puis elle avait ça tous les jours, deux fois par jour.
Et donc, c'est vous qui... Non, c'est la sage-femme qui faisait ?
Non, c'était les infirmières du CMS qui venaient
faire
tous les jours. Okay. Mais voilà, on est rentrés quand même avec ça.
Ouais.
C'était une... Alors, par rapport à ce qu'on avait vécu, c'était rien.
Ouais, mais ça peut-être...
Mais c'était quand
C'était peut-être la goutte de trop, en fait, à accepter.
La goutte de trop. Donc, quand on est rentrés, nous, on était accueillis par l'infirmière, tu vois. On n'était pas accueillis par des ballons et des copains, tu vois.
Ouais.
Donc voilà, on a eu ça pendant quand même quelques semaines, voire quelques mois. Et puis, il y a tout qui est rentré dans l'ordre petit à petit. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que Jade, elle est suivie. Elle reste beaucoup suivie.
D'accord.
Pour le moment, tout va bien. C'est des suivis de contrôle, mais qui nous rassurent quand même.
Et tout s'est développé correctement ou elle a eu un peu de retard ou même pas?
Bien. Mais elle est tellement, tellement chou. Mais elle fait tout ce qu'il faut quand il faut. Après, voilà.
Jade, check.
Mais projet super réussi, finalement. Elle est parfaite. C'est une guerrière, quoi. C'est fou parce que quand je la vois, je me dis, mais je ne peux pas me plaindre, en fait. Elle a vécu des atrocités, mais dès la première seconde qu'elle est née. Et elle pète la faim. Mais c'est une pile électrique.
Bah, c'est maman, quoi.
Oui. Elle, oui, exactement. Elle est souriante. Elle est tellement active.
Elle marche, là ?
Alors, elle commence un petit peu. Elle marche un peu autour des meubles. Elle se lâche les mains.
Ouais.
Je pense que
c'est
ça va pas tarder.
C'est pour bientôt, là.
Je pense que ça va pas tarder. Elle a son petit chariot qu'elle pousse. Il y a tout qui va bien.
Et vous, les parents ? Parce que là, on a beaucoup parlé de Jade.
Oui.
Son histoire. Et maintenant, je vais remonter dans le temps. Et j'aimerais comprendre, pour toi et ton mari, comment vous l'avez vécu aussi en tant que couple et individuellement.
Alors, c'était, c'était une sacrée aventure qui nous a beaucoup rapprochés. Alors, nous, on est vraiment très fusionnels et très proches.
D'accord.
Et ça nous a beaucoup soudés, en fait, parce qu'on a vécu, alors, la même chose, la même histoire, mais on n'a pas vécu de la même manière.
Oui.
Donc, on a pu en parler. Ouais. Au CHU, on a eu un suivi psy, quand même, pendant cette
période. Ça vous a fait du bien ?
Énormément. Donc, on était les deux avec une psychologue qui nous a beaucoup écoutés. On a pu se décharger. À des moments, moi, j'étais pas bien. À des moments, c'était lui. Donc, on se complétait.
Ouais.
Donc, pendant cette période-là, on s'est vraiment beaucoup soutenus. Mon mari, il était extraordinaire, quoi. Mais vraiment, alors, je savais, je savais qu'il était extraordinaire. Mais vivre ça, c'est quand même... ça peut avoir un impact comme positif comme négatif sur les couples, malheureusement. Et puis pour nous, ça nous a tellement soudés. Ouais. On était à fond, on était vraiment une équipe.
Ouais.
Donc ça, c'est nous, parents, et jusqu'à aujourd'hui, on est vraiment une équipe. C'est un papa extraordinaire. Il est très fusionnel avec Jade. Enfin, c'est fou, mais je les découvre tous les jours, dans ce rôle. Et donc, en tant que couple, alors, je pense que pour la plupart des couples, c'est difficile déjà la première année avec un enfant.
Ouais.
D'autant plus quand on vit un peu quelque chose de traumatique comme ça, où on est...
C'est lourd. Parce que ça pèse dans l'histoire.
Oui, Et puis moi, je l'ai vécu dans mon corps, tu vois. Donc, j'avais un peu des allers-retours au début. J'avais des flashbacks.
Ouais.
J'étais pas bien.
Petit traumatisme. Hein.
Exact. Ouais. Et je lui en parlais, et puis des fois je lui en voulais pour des trucs, et puis lui aussi. Enfin, voilà, c'était un petit peu, ça battait de l'aile au début à ce niveau-là, mais il y a tout qui est rentré dans l'ordre petit à petit.
Ouais.
Et puis on en parle, quoi.
Ouais, en fait, vous communiquez vachement.
Énormément, mais pour tout, pour tout. On laisse pas les choses s'enquister, on est très communicatif.
Très
communicatif.
Et vous arrivez à prendre du temps pour vous, à avoir des moments sans Jade aussi.
Bah alors, il y avait ma maman.
Maman. Comment elle s'appelle, maman ?
Elle s'appelle Mongia.
Mongia.
Et puis, elle était tellement chouette.
Petite dédicace.
Oui.
Peut-être qu'il y a la Tunisie qui va nous écouter, d'ailleurs, avec cet épisode.
Bien sûr.
On leur fait une petite dédicace.
Et il faudrait que je lui envoie tout ça. Je crois que c'est vrai. Mais
elle est restée combien de temps ?
Elle est restée un mois et demi. Donc, ce qui était super. Ouais. Parce que... Alors, elle est restée avec nous la période de l'hôpital, donc les deux dernières semaines, et puis après à la maison. Parce que, ben voilà, nous, on a passé toute la période. Donc, quand j'ai pâte, voilà. C'est ridicule.
Ouais.
On pousse un petit coup d'œil. Et donc, lui, il a repris le travail, donc vraiment au retour à la maison.
Ouais.
Donc, tu vois, moi, j'étais heureusement que j'étais avec ma maman.
C'était aidé,
Toujours avec mon sésame, toujours avec mon huile d'olive et toute l'attirail qu'elle m'a apporté avec elle. C'était génial. Vraiment, elle était d'une très grande aide. Elle s'occupait de Jade, mais comme il faut.
Enfin, ouais.
J'étais...
La maman, quoi.
Oui, la maman, quoi. C'était génial. Et donc, donc elle était avec nous. Après, elle est partie. Donc ça nous a aussi beaucoup aidé. Donc, on a pu dormir.
Ouais.
On a pu avoir des moments pour nous. On a pu sortir un petit peu aussi. Donc ça nous a quand même pas mal aidé. Et puis maintenant aussi, on arrive... Mais tu vois, notre vie tourne autour d'elle. En fait, on est tellement Jade.
Ouais. que forcément, elle prend. Et ce qui est normal, qu'elle prenne la place qu'il faut. Hein.
Mais en fait, on se retrouve en tant que couple dans la parentalité.
Ouais.
Je sais pas si on peut dire ça comme ça.
Moi,
mais
je pense que
je pense
peux.
Que si je dois définir en fait ce qu'on est maintenant, c'est ça.
Ouais.
Tu vois, on est autour, on oscille un peu autour d'elle, quoi. Et c'est génial, tu vois, bien quoi.
Incroyable.
Ouais.
L'histoire de cet instinct aussi que tu as eu. Moi, je tiens à expliquer pour la petite histoire aussi que Haïfa m'a écrit le lendemain de son accouchement.
Oui.
J'ai reçu un petit email un jour. J'ouvre cet email et je vois un email d'Haïfa qui me dit j'ai accouché hier. Enfin, elle me raconte l'histoire, quoi, en quelques mots. Et moi, j'étais là, mais comment elle peut penser à m'écrire à ce moment-là? Enfin, ça m'a tellement, surprise.
Oui.
Et je t'avais dit, attends, Haïfa, vis ton truc
jusqu'au
bout, profite, concentre-toi sur la petite et on se réécrit dans quelques mois.
Ouais, mais en fait, j'étais tellement, j'écoutais ouais, sur tous mes trajets, en fait, tes podcasts et puis d'autres podcasts. Et j'étais vraiment pépite mama. Dès que je monte dans la voiture, je mets mon épisode, je le finis pas sur le trajet en général. Sur le trajet du retour, je finis le reste. Enfin, c'était un peu un rituel. Et j'écoutais un peu tous les épisodes, tu vois. Mais j'étais, mais attends, là, pépite mama.
Il y a une histoire, quoi.
Il y a une histoire à raconter. C'est pas possible. Et puis, en fait, le plus important pour moi dans tout ça, c'est aussi déjà de raconter l'histoire de Jade, parce que bah, c'est quand même une histoire pour moi exceptionnelle.
Bah,
c'est,
oui.
C'est une guerrière, et puis c'est aussi pour elle. Mais je trouve que c'est important de dire que même quand ça se passe mal, mm-hmm. finalement, ça peut bien se passer.
Ouais.
Tu vois, enfin,
moi, t'arrives avec un message aussi, oui. avec beaucoup de positivisme.
Oui.
Enfin, je trouve qu'il y a beaucoup de nuances. On sent qu'il y a eu des moments difficiles,
oui.
mais t'en ressors vraiment avec, comme tu dis, c'était aussi un beau souvenir, la néonate. C'était doux, ouais. d'une certaine manière,
Exactement. Oui.
dans la difficulté.
Exactement, c'est ça. Enfin, je me dis, moi, j'ai vécu... Alors, je dis pas le pire, hein. Il y a toujours mm-hmm. pire, mm-hmm. forcément. Et puis, il y a sûrement des mamans qui nous écoutent, qui ont peut-être vécu quelque chose ouais. De très lourd et très traumatique, ainsi de suite. Mais c'est mon vécu et ouais. c'est comme ça que je l'ai senti. Mais j'ai quand même vécu la chose dont on a toutes et tous
ouais.
Peur.
Bah ouais.
Le truc, quoi, à ouais. ne pas vivre, tu
ouais.
vois.
Ouais.
Genre, la césarienne d'urgence,
ouais.
le code
Genre,
rouge.
On le sent plus, on la sent plus.
Exactement. Ouais. Ton bébé qui va pas bien, qui ouais. est en néonate, qui est intubé. Enfin, tu vois.
Ouais.
Et même dans tout ça, et c'est aussi un message pour rassurer
ouais.
en fait, les personnes, même avec ça, tout va bien, tu vois.
Tout peut aller bien.
Oui, tout va bien. Et puis, on en sort grandi, mm-hmm. on en sort différent. On n'est pas, ça fait pas de nous une maman différente. Mm. Tu vois,
Par contre, ça fait de vous avec une histoire un peu particulière, mm-hmm. des débuts un peu plus difficiles,
Exactement.
Mais qui vous ont peut-être porté pour affronter des situations Exactement. À venir aussi.
Tout à fait. Et puis, du coup, là, avec Jade, moi, je suis tellement... Alors, autant pour certaines choses, je suis très... un peu dans l'hypervigilance, ouais. comme ça. Autant, mais moi, je ramasse les lettres par terre, je les mets dans la bouche. Enfin, tu vois, c'est des trucs...
Mais
on se dit, peut-être que ce vécu-là pourrait impacter ouais. ma façon de faire avec
ouais.
elle
ouais.
Et que je sois vraiment... Que tout ouais. soit aseptisé, que je la ouais. surprotège. Mais pas du tout.
Ouais.
Mais pas du tout, tu vois. Enfin, elle fait un peu ce qu'elle veut, quoi. Pour le moment.
Petit. Jade.
Enfin, je suis éduque.
T'as hein. à l'œil. Hein.
Ça va. Mais pour le moment, voilà, elle vit un peu sa meilleure vie. Et
elle a bien raison.
Ouais.
Et comment vous voyez l'avenir, là?
Alors, je vais pas...
La question piège.
Oui, je sais. On n'arrive pas à se projeter pour un deuxième maintenant.
Ouais.
Mais c'est dans nos projets mm-hmm. futurs, tu vois. C'est quelque chose qu'on envisage.
Il y a le temps.
Exactement. Puis tu vois, je me dis, mais en fait, je suis tombée tellement bas, ouais. je ne peux pas tomber plus bas. Je vais sûrement vivre quelque chose de mieux. C'est sûr, on ne peut pas
ouais.
vivre pire, tu
ouais,
vois.
Ouais.
Enfin, voilà, pour caricaturer.
Ça viendra quand vous êtes prêts, si ça devait être Exactement, le cas. Et puis pour l'instant, vous...
Mais en tout cas,
vous pépitez
dans...
Jade.
Oui, c'est ça. On pépite Jade et puis on est tout contents comme ça, tous les trois.
Bah, moi, je te remercie de t'être livrée à mon micro, Aïfa.
Bien,
c'était un pur
toi.
Plaisir. T'es un rayon de soleil, t'es une boule d'énergie. Enfin, honnêtement, si Jade, elle tient de toi, incroyable.
Bah...
Ne change pas, vraiment.
Merci.
Mais écoute-toi.
Oui.
Et j'ai envie de dire à la suite au prochain épisode.
Oui. Merci à toi. Et ben voilà, moi, je tiens aussi à te dire que ton podcast, en tout cas, fait beaucoup de bien.
Merci.
Et ça, c'est ce que ça m'a fait à moi.
Mmh.
Et j'espère que cette histoire pourra rassurer et faire du bien, même si c'est une histoire qui a quelques difficultés
ouais.
et puis quelques...
Bah, c'est l'idée, ouais. en tout cas. C'est ce qu'on espère.
Oui. C'est ça.
Des bisous.
Bisous.
Je vous remercie pour votre écoute et n'hésitez pas à faire circuler les épisodes sur les réseaux et à vous abonner à ma chaîne afin de faire grandir la communauté.